Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cette table ronde pendant laquelle nous allons faire honneur au thème de ce festival, en parlant de transmission et plus particulièrement de transmission du patrimoine scientifique. Et donc pour en parler avec nous, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quatre femmes de science et de transmission. Que je vous présentais un petit peu avant qu'on commence nos échanges. Donc, tout au fond, nous avons Sylvie Lenné, qui est docteur et ingénieur en informatique et professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lyon, Jean Boulin d'ailleurs. Elle est également auteure de romans et de nouvelles de science-fiction et de fantastique. Et du coup, elle a reçu pas mal de prix, notamment 4 prix René Lenné et 2 grands prix de l'imaginaire. À côté d'elle, nous avons Nathalie Besson, qui est chercheuse au CEA. Elle dirige le département de physique de particules à l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Depuis 4 ans, elle travaille aussi avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, sur le projet LISA, qui se propose de créer et d'envoyer dans l'espace un interféromètre laser pour caractériser les ondes gravitationnelles à très basse fréquence et étudier les trous noirs supermassiques. À côté d'elle encore, Stéphanie Simon, qui elle aussi est chercheuse au CEA, mais dans un tout autre domaine. Elle est chercheuse en immunoanalyse et pharmacologie. Elle dirige le LERI, c'est-à-dire le laboratoire d'études et de recherche en immunoanalyse, dont l'objectif est de produire, de caractériser et d'utiliser des anticorps, soit pour détecter des agents pathogènes, soit alors pour des fins pharmaceutiques. Elle a également coordonné la branche biologie du programme NRBCE, excusez-moi, qui est le programme de recherche en sécurité globale du CEA, donc centré sur la lutte antiterroriste, qu'elle soit donc pour les menaces terroristes, qu'elles soient soit nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou explosives, d'où le NRBCE. Et enfin, avec nous, nous avons Annabelle Crémer-Lecointre, qui est enseignante agrégée en sciences de la vie et de la Terre. Qui a également été ingénieure en formation, c'est-à-dire qu'elle a conçu, en collaboration avec des professionnels de la recherche, des formations en sciences destinées aux enseignants. Et elle est également autrice prolifique d'œuvres de livres de vulgarisation scientifique. Et on lui doit en particulier un livre qui va nous être très utile aujourd'hui, qui est donc « Femmes de science à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui », qui a été publié aux éditions Lamartinière Jeunesse. Voilà pour nos intervenantes. Pour commencer cette table ronde, moi j'aimerais commencer par un petit constat slash aveu très personnel. Je suis née dans les années 80 et malgré le fait que j'ai été éduquée par un père qui était passionné de science, j'ai plus ou moins grandi avec l'idée que la participation des femmes à la vie scientifique avait commencé à la fin du 19e, voire au début du 20e. Donc en gros, pour faire simple, c'est comme si les femmes avaient attendu que Marie Curie arrive pour que les femmes pour s'intéresser aux sciences et ou qu'elles développent aussi des capacités pour contribuer à ce pot commun qu'est la connaissance scientifique. Donc bon, j'ai un peu grandi depuis, vieilli, certains diront certains. Et donc ma culture s'est un peu développée, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai. Donc pour se lancer ces échanges, je me tourne vers Annabelle, surtout, qui a quand même pas mal étudié la question, pour reposer un tout petit peu les bases. Quelle a été la contribution des femmes en sciences dans le passé et pourquoi est-elle soit si faible, soit si peu visible?
Alors, les femmes, en fait, ont de tout temps participé à la construction des savoirs et à leur diffusion. C'est pour ça que dans le livre, en fait, je voulais commencer avec Hypatie, la charnière entre le 4e et le 5e siècle, pour montrer qu'il y avait déjà des femmes présentes en sciences à ce moment-là, et puis aller jusqu'à des femmes actuelles. Alors, pourquoi elles ont été invisibilisées? Il y a beaucoup de facteurs sociaux, culturels, historiques, on aura peut-être le temps de les déployer tout à l'heure, mais en tout cas, tous ces facteurs-là ont eu comme conséquence qu'elles ont accédé à l'instruction et à l'éducation très tardivement, en fait, par rapport aux garçons. Il faut quand même bien se rendre compte qu'en 1900, 3% des étudiants à l'université sont des femmes. En 1900. Donc, imaginez-vous en fait l'exploit de ces femmes au 5e, 6e siècle, 10e siècle qui font des sciences. Alors, souvent, et ça on le voit dans les portraits de ces femmes, souvent grâce à un mari ou à un père qui était bienveillant et qui leur a permis de s'instruire à domicile. Donc, souvent, ce sont quand même des filles qui ont la chance d'être instruites dans leur foyer. Mais voilà, s'agissant des facteurs, bien sûr, il y a le patriarcat, on pourrait en parler assez longtemps, mais qui est présent depuis au moins le néolithique et qui a contribué à ce qu'il y ait une répartition sexuée en fait des tâches. Il faut rajouter à ça les interprétations fallacieuses des textes sacrés faites par des hommes pour des hommes. Les interprétations fallacieuses aussi en médecine, depuis l'Antiquité gréco-romaine. Quand on veut chercher à alimenter le mythe du sexe faible, on va essayer de regarder au niveau de la biologie, voir si on ne trouve pas un truc un petit peu déconnant chez les femmes par rapport aux hommes. Puis quand on cherche, évidemment, on va trouver. On va dire que l'utérus est un organe débilitant, pathogène. Voilà. On va dire que le cerveau des femmes en moyenne est moins volumineux que celui des hommes. Effectivement, il l'est en moyenne puisqu'elles sont aussi moins corpulentes. Mais voyez, on a toujours trouvé en fait dans l'histoire de quoi alimenter ce mythe du sexe faible. Et donc les filles, les femmes ont grandi aussi dans une société où elles valaient moins que les hommes en fait.
Et du coup, vous avez abordé le fait que pourquoi est-ce qu'elles étaient moins nombreuses, déjà, clairement. Mais il y a aussi une chose, justement, vous avez parlé d'Hypatie d'Alexandrie. Bizarrement, je connais Galilée. J'ai découvert l'existence d'Hypatie relativement tard. Donc ça veut dire que le peu de femmes qui arrivaient à faire des sciences, elles ont disparu de nos mémoires. En tout cas, elles sont pas rentrées dans l'espèce d'inconscient collectif qu'on partage. Et on va dire cette surface de culture générale scientifique qu'on a tous plus ou moins reçue à la naissance.
Ouais, tout à fait. En fait, il y a l'historiographie aussi sélective. Moi, j'ai été confrontée à ce problème quand j'ai essayé de chercher des sources documentaires multiples sur certaines femmes où j'ai été en manque d'informations. Mais parce que les historiens et les historiennes ne se sont pas assez penchés sur ces femmes. Et donc, on a assez peu d'éléments, sans parler du fait que certaines femmes ont vraiment disparu des annuaires scientifiques. Il y a eu... Christelle Tarot, qui est historienne, le dit très bien. En fait, il y a un féminicide qui est évidemment explicite. On le connaît. C'est tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Mais il y a aussi un féminicide qui est symbolique. C'est l'effacement des femmes en fait dans l'histoire. Et moi, j'ai voulu faire ce livre parce que dans l'enseignement, je suis confrontée à ça. C'est-à-dire que mes élèves, à part Marie Curie, ils ne connaissent aucune femme scientifique. Et quand je faisais une conférence sur un de mes premiers livres qui s'attachait à retracer la vie de Charles Darwin, j'ai une petite fille qui est venue me voir à la fin et qui m'a demandé « Madame, est-ce que chercheuse, ça existe aussi ?» Et là, je me suis dit « Mince, il faut vraiment que je fasse quand même... il y a du travail, ouais, exactement.
» Du coup, ça me permet de transitionner justement sur la suite, mais c'est quelles sont les conséquences de cet effacement ? C'est-à-dire que est-ce que c'est grave ? Ou bien est-ce que c'est encore un truc de féministe limite, elles nous emmerdent, ces bonnes femmes, quoi. Vous avez le droit de me taper.
Non, pas taper, non. Je ne sais pas. Alors, en fait, moi, je ne suis pas historienne des sciences, je pense que c'est... comment dire ? C'est quelque chose qui est très ancré dans la société, qui est très diffus, et il y a des images d'Épinal à faire sauter qui sont... qui collent, qui sont très difficiles à détacher. Par exemple, moi, je me rappelle, il y a quelques années, à l'occasion d'une fête des sciences, on avait demandé... on était devant la foule qui passait ou qui s'arrêtait parce qu'elle était intéressée. Il y avait un modérateur qui était là et qui disait « Aujourd'hui, on va discuter avec des gens qui font de la recherche. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur ?» Et alors, essentiellement, les enfants ont répondu, mais ce qui en est ressorti, c'était un vieux type avec une blouse blanche et des stylos dans la poche et un carnet, quoi, même pas de laptop, on oublie le laptop. Donc nous, derrière, on était évidemment mortes de rire, surtout qu'essentiellement, il y avait deux nanas et un chercheur. Donc après, on a essayé de démonter les mythes, mais il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, quand on demande aux gens, et puis j'avais fait une recherche Google aussi pour rigoler, Google Images, et c'est effectivement des vieux types en blouse blanche qui sortent. Donc ça continue à diffuser, quoi.
Puis attention, en référence culturelle de très haut vol des années 80, il était une fois la vie. Le vieux sage, c'est un homme barbu.
Alors dire que c'est grave, je ne sais pas. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par grave. Après, je pense que c'est important que les femmes soient là, présentes en sciences. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de choses à apporter aussi. On n'a pas forcément le même fonctionnement, la même approche des choses dans la communication, dans dans la construction des projets. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait que des femmes, il ne faut pas qu'il y ait que des hommes non plus. Mais je pense que le fait qu'on soit tous ensemble, ça nous permet aussi d'échanger beaucoup et de construire d'une façon différente.
Et puisque tu nous branches sur le féminisme, je vais en rajouter une couche. On est dans un imaginaire sur les sciences qui effectivement occulte les femmes, mais il y a dans les universités, dans un certain nombre de structures où on s'occupe de sciences, un souci de les rendre plus visibles en parlant des étudiants et des étudiantes, des chercheurs et des chercheuses. Et je trouve désolant que le gouvernement actuel ait, comme dans ses priorités du moment, le souci d'effacer tout ce qui est écriture inclusive. Dont... écriture inclusive qui ne se résume pas au point que l'on peut mettre pour construire des formes où tout peut être redécomposé, mais qui nous oblige à faire un effort pour utiliser des termes épicènes. Et je vous avoue que si j'ai envie de parler d'un pompier, je ne sais pas comment le dire avec un terme épicène qui soit féminin, d'un médecin, d'un chercheur. On a un mot, mais visiblement dans l'imaginaire, il n'est peut-être pas encore assez utilisé. Et je vous écoutais parler du vieux sage. Comment on dit ça au féminin ?
La vieille passage.
Donc la première étape, c'est peut-être déjà de travailler sur cette vieille idée que le masculin est neutre. D'abord, je trouve étonnant que les hommes s'en accommodent, parce que c'est un peu nier leur masculinité, que quelquefois ils aimeraient peut-être mettre en avant, pas tout le temps. Mais d'autre part, si le neutre, c'est la norme, eh bien, nous voilà tout de suite mises en position d'être des exceptions. Et moi, personnellement, en tant que scientifique, j'ai pas l'impression... Enfin, si on me met déjà en position singulière et exceptionnelle parce que je suis une femme avant même que j'ai commencé à travailler, je pense qu'il y a un problème.
Et je pense qu'il y a un pendant au vieux sage, mais ça va pas nous plaire, c'est la grand-mère. Vous savez, les recettes de grand-mère, les solutions de grand-mère, ce genre de choses-là. Les trucs où c'est en mode... Bizarrement, ça fait moins scientifique tout de suite comme image.
Oui, puis moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Sylvie, parce que en ce moment, c'est toujours voilà, la question, oui, on est en train de féminiser la langue. En fait, on veut juste la démasculiniser. En fait, enfin, disons que le terme, par exemple, d'autrice, c'est un terme qui existait avant, médecine, pour parler d'une femme médecin, ça existait. Voilà. Et puis, l'Académie française a décidé de mettre un coup d'arrêt à ça. Et c'est devenu la loi du masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais avant, l'accord ne se faisait pas ainsi. C'était l'accord de proximité et l'accord de majorité qui prévalait. Donc en 1647, on a tout changé. Et puis on a dit, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais il faut savoir qu'il y a tout un tas de métiers qui étaient au féminin avant. Et donc, il faut juste retrouver aussi ces mots-là. Et comme tu disais, les mots épicènes, voilà, quand on s'adresse, qui peuvent être aussi bien entendus au masculin qu'au féminin.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites là, en travers, quand même, c'est que toute cette invisibilisation-là, on n'a pas eu encore les conséquences aujourd'hui, c'est encore des mécanismes qui sont présents. Et du coup, moi, j'aimerais savoir justement quelle forme ils prennent dans votre vie de tous les jours, de chercheuse, ces mécanismes-là d'invisibilisation. Est-ce que c'est quel, et surtout, est-ce qu'il y a un changement à faire en tant que femme pour s'intégrer dans ce milieu de la recherche masculin? Est-ce que, entre guillemets, on doit sacrifier quelque chose pour faire de la science? Est-ce qu'on doit sacrifier une partie de soi-même?
Dans mon quotidien, je dois avouer que j'ai un entourage masculin assez fort, mais avec beaucoup de... Enfin, je me ressens pas spécifiquement femme parmi tous ces hommes, donc ça, c'est un point important. Ça n'a pas toujours été le cas, et ça relève aussi du management, c'est-à-dire qu'il y a des vieux managers qui sont un peu à l'ancienne, très paternaliste au minimum, patriarcal parfois. C'est moins le cas maintenant, je le ressens moins. Après, je dirais que dans la hiérarchie, en particulier au CEA, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les femmes puissent accéder à certains postes à responsabilité. C'est pas encore parfait, mais il y a des efforts qui sont faits et ça fait partie d'un plan national, si j'ai bien compris. Néanmoins, il y a encore plein de réunions où je me retrouve la seule femme parmi 20 hommes. C'est encore très fréquent. Mais je ne ressens pas d'invisibilité, en tout cas dans mon entourage.
Bon, j'ai un peu le même ressenti. Ce n'est pas de l'invisibilité. Par contre, de temps en temps, on retombe sur quelqu'un qui va nous sortir une petite phrase qui tue, genre « je passe ma thèse » et un de mes collègues me tape sur l'épaule en me disant « bah c'est bien, maintenant tu vas pouvoir faire des enfants ». J'avais un autre programme, dommage, mais voilà, ce genre de réflexion, on se dit « bon, il y a encore un tout petit peu de boulot ». Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça ne vient pas... Donc moi, je suis comme toi, hein, dans un milieu essentiellement masculin, où je ne ressens aucun problème lié au fait qu'il y a des femmes, il y a des hommes, il n'y a pas de différenciation. En revanche, les petites remarques qui tuent de style de celles que je viens de citer ne viennent pas forcément des hommes et pas forcément du travail. Par exemple, dans ma famille, on m'a dit « tu veux pas faire un vrai métier normal, un métier de femme, quoi ?» Ah, et c'était
soin,
une femme.
Dans le care. Dans le... Je suis la plus vieille ici. Donc, moi, je suis rentrée dans le milieu dans les années 80. Dans les années 80, bon, dans l'école d'ingénieurs où je suis rentrée, on était une femme pour sept. C'était même dans les années 70. Le discours de bienvenue du directeur du département informatique, je ne l'oublierai jamais, ce discours. C'était « Nous sommes heureux de vous accueillir, surtout vous, messieurs, qui vous préparez à exercer un métier passionnant. Mesdames, nous sommes heureuses de vous avoir avec nous. Vous allez probablement vous marier, épouser quelqu'un qui peut-être fait partie de cette promotion et est à côté de vous actuellement. Mais bon, nous sommes heureux de vous accueillir, même si probablement vous allez avoir bien d'autres choses à faire dans votre vie qu'une carrière professionnelle. » Ça a donné le ton tout de suite. Ça nous a tellement énervé que la majeure de promo cette année-là était ma comanip. Donc, une fille. On en a peu parlé. Ça n'a pas trop ému la foule. Alors, juste pour dire d'un point de vue temporel ce que j'ai vu moi, cette époque-là était patriarcale de manière écrasante. Ça s'est un petit peu amélioré au cours des années qui ont suivi. J'ai la triste impression, je ne veux pas être pessimiste, qu'en gros, depuis 2010, on régresse. Je pense qu'on est dans une société en crise et que dans une société en crise, quand on n'est pas en position de pouvoir, eh bien, on est encore un peu plus écrasé. Et je ne vais pas raconter dans le détail, mais nous avons toutes connu ici les réunions où nous sommes effectivement peu nombreuses, mais on nous écoute poliment, on nous laisse parler, mais c'est comme si ce que nous disions n'avait pas vraiment d'importance. Quand moi, j'étais dans des conseils académiques dans les universités, où curieusement, mais ils ne le faisaient pas exprès du tout, le président ne voyait pas quand les femmes levaient la main. Ou alors il fallait qu'elles aient vraiment une personnalité très très déterminée, auquel cas la réputation qui les accompagnait était assez féroce aussi. Donc c'est très difficile au quotidien.
Par contre, du coup, ça me pose une question, c'est à qui profite le crime, mais surtout, on parle de patriarcat, je pense qu'on n'est pas les seuls à être un peu féministes dans la salle, mais c'est toute la question, c'est de dire est-ce que les
comportements... C'est dommage qu'on voit pas la salle. Moi, j'aimerais savoir s'il y a plus de femmes que d'hommes dans la salle ou si c'est réparti. Mais on voit rien du tout.
Non, ça a l'air d'être à peu près réparti.
Ah, c'est bien, c'est bien.
Après, on est content qu'il y ait des hommes dans la salle aussi.
Oui,
hein,
on est content. Mais tout à fait.
On va pas vous manger. Mais du coup, la question que je me pose, c'est qu'à la rigueur, à l'heure actuelle, est-ce que justement ces comportements-là, c'est entre guillemets le fruit de quelques vieux machos dinosaures qui vont bientôt disparaître, et Dieu merci, ou bien est-ce que c'est un système et qu'en fait on a quand même un certain nombre de gens qui sont pas activement entre guillemets discriminants, mais qui entre guillemets profitent bien du système. Et pour le coup, j'ai en tête un petit exemple historique. Il doit y avoir, je me suis permis de mettre les prix Nobel de physique, chimie, médecine et quelques médailles Fields en présentation, et notamment celles qui n'ont pas aussi reçu de prix Nobel. Et dans le lot, on a Lise Meitner, qui a très très fortement contribué à la découverte de la fission nucléaire, et qui n'a pas reçu le prix Nobel. Et celui qui l'a reçu, c'est Otto Hahn, qui était a priori un bon gars, alors certes en Allemagne nazie, mais pour le coup pas nazie. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Mais le fait est que, même si, entre guillemets, c'était un bon gars, qu'il n'était pas nazi, il a quand même profité de cette situation-là. Et du coup, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on est dans une situation où vraiment, on a encore des gens qui sont activement sexistes, ou bien est-ce qu'on est juste en train, entre guillemets, de subir un système.
Moi, je pense que ça fait des millénaires hein, qu'il y a un système de privilèges qui est en place. Alors, en général, quand justement j'aborde la question de la place des femmes en science, et ça déborde très vite la place des femmes dans la société, je rassure tout de suite les hommes qui sont dans la salle ou les adolescents qui sont dans la salle en leur disant « Mais vous n'êtes pas responsable des privilèges hein, que vous avez hérités en fait, depuis plusieurs siècles, même millénaires. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Hein. » Donc, c'est un peu ça la question. C'est est-ce que... les hommes, les adolescents sont prêts à partager l'espace, la parole, le temps libre, le pouvoir entre guillemets, l'argent, hein, parce que la question des salaires, voilà, on n'est toujours pas à l'égalité. Alors puisqu'on est aux utopiales, disons-le clairement, hein, l'égalité homme-femme, c'est une valeur, hein, mais c'est pas encore une réalité, c'est une utopie. Mais il faut déconstruire tout ce système patriarcal, même si juridiquement il a été aboli. Allez, on va dire, on a les derniers relents juridiques du patriarcat en 70-80, hein, où on commence à dire que voilà les biens dans une famille peuvent être gérés par les deux. Bon, là, on est à peu près aux années 1980. Mais il y a encore plein de traces de ça, en fait. On est tellement ancré, c'est un système qui est tellement ancré qu'il est intériorisé. Moi souvent, les jeunes me disent « Mais il n'y a pas de problème. » Si, si, il y a un vrai problème, parce que le dernier rapport sur l'égalité homme-femme, qui a été établi là en février 2023 par le Haut Conseil pour l'égalité, montre que le sexisme ne recule pas du tout en France. Au contraire, il est de plus en plus important pour la jeune génération. Les plus touchés, ce sont les 15-24 ans. Ça pose question.
Je voudrais juste ajouter qu'on a tous et toutes notre responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que les femmes aussi ont leur responsabilité, on a aussi nos biais cognitifs et nos façons d'élever nos enfants et de transmettre. Donc c'est vraiment pas qu'une histoire d'hommes, c'est aussi une question de femmes.
Ça, c'est. J'ai eu la même réaction que toi, parce que combien de fois, quand je vais voir des élèves, des lycéennes, pour discuter science avec elles, combien de fois elles me disent spontanément « Oh là là, mais perdez pas votre temps, je ne vais rien comprendre, madame, je suis une fille. » Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans la phrase, il y a évidemment la contradiction, puisqu'elle me dit « Madame, donc la physicienne est une femme, bravo. Mais par contre, moi, fille, je ne vais rien comprendre à ta physique parce que je suis une fille. » C'est tragique, c'est-à-dire qu'elle, comme tu dis, c'est intériorisé, c'est même ancré. Enfin, elle pense spontanément qu'elle n'a pas le cerveau physicien. Horrible.
J'aimerais bien donner quelques chiffres parce que je pense que ce dont on discute ici, c'est plus une question de pouvoir qu'une question liée à la science. Et on parle du plafond de verre. La difficulté qu'on a, il me semble, dans cette table ronde, c'est que soit on va vous raconter des anecdotes et là, vous partagerez un peu notre vécu, mais vous pouvez vous dire « oui, c'est une expérience ponctuelle ». Et il y a beaucoup d'hommes avec qui je parle dans des milieux scientifiques qui me disent « oh non, mais moi j'ai eu des chefs femmes, donc ils sont capables de m'en citer trois ». Ils ne citent pas en même temps les 30 hommes qui ont été leurs supérieurs hiérarchiques. Donc l'anecdote, bon voilà, est-ce qu'elle est représentative? Et puis après, il y a l'autre manière de prendre le problème qui est de prendre des chiffres. À l'université, je vais vous dire des chiffres à la louche parce que je ne les ai pas vérifiés récemment, mais en gros, du point de vue des gens qui font une thèse, les doctorants, il doit y avoir à peu près 55% de femmes si on prend toutes les sections confondues, sciences humaines, sciences sociales, enfin tous les aspects de la science. Si on passe au corps des maîtres de conférences, qui est le premier corps titulaire à l'université des enseignants-chercheurs, on a pratiquement la parité, puisqu'on doit avoir à peu près 55% d'hommes et 45% de femmes. Quand on monte au niveau professeur d'université, le grade au-dessus, on descend à, je crois, 70% d'hommes. Et si on regarde ce qui se passe au-dessus dans les présidents d'université et les équipes présidentielles, eh bien, j'ai des chiffres, je ne les ai pas repris complètement, mais en gros, on doit être à une femme sur 6 ou 7. Et plus on monte, moins il y a de femmes. Et pour juste une dernière chose, on a probablement toute l'expérience de participation à des recrutements de collègues. À l'université, c'est des collèges d'experts. Dans les collèges d'experts, on cherche évidemment la personne idéale qui couvrira exactement les sujets qu'on a envie d'approfondir en recherche ou en enseignement. Et inconsciemment, la personne idéale telle qu'on se la représente, que ce soit des femmes ou des hommes, ça va spontanément être un homme. On le trouve calme, à l'aise dans sa position d'autorité qu'on entrevoit dans son audition. On l'imagine bien face à un public. Et spontanément, la femme semble moins correspondre à l'espèce de prototype au chercheur idéal qu'on a en tête. Je pense que notre masculin qui l'emporte sur le féminin a sa place là-dedans. Il y a peut-être aussi d'autres choses.
Mais du coup, ouais, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a posé ce problème, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est ça, c'est que ce matrimoine scientifique dont on parle depuis le début de la table ronde, quelle forme il prend et qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Et à qui ? C'est-à-dire, quand je dis qu'est-ce qu'on veut transmettre, c'est qu'on est bien d'accord que ce matrimoine-là, ce n'est pas uniquement de la connaissance scientifique. Déjà parce que la connaissance scientifique n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Mais qu'est-ce que nous, on veut transmettre justement aux filles, aux garçons, enfin déjà aux filles, aux garçons, à qui ? Qu'est-ce qu'on voudrait partager ? Qu'est-ce que vous voudriez partager ?
Moi, je pense qu'il faut que tout le monde s'en empare de cette question. Alors moi, en tant qu'enseignante, faut évidemment que je veille à distribuer aussi la parole dans la classe, à valoriser aussi les filles qui ont tendance, en moyenne, mais c'est toujours en moyenne, elles sont un petit peu plus passives ou un petit peu plus timides. Mais encore une fois, c'est parce qu'elles elles ont complètement intériorisé des normes, des stéréotypes de genre, en fait. Donc il faut qu'on distribue la parole. Évidemment qu'il faut qu'on mette ces femmes-là dont on parle dans les manuels scolaires. Hein. Ça commence à venir, mais c'est quand même... Moi, il y a une autre anecdote, hein. Vraiment, je glisse un petit peu, mais en tant que prof de SVT, ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'on a attendu quand même 2017 pour qu'on mette correctement une illustration du clitoris dans un manuel de SVT, quand même. C'est dingue. Avant ça, en fait, on dessinait le clitoris, c'était juste le petit gland, alors qu'en fait, en réalité, c'est presque la même taille qu'un pénis. C'est constitué des mêmes parties, des corps caverneux et du corps spongieux. Donc vraiment, ça va jusque-là. C'est-à-dire que l'invisibilisation, elle va jusque-là. Et ça, il faut le dire, en fait, très concrètement. Il faut être explicite. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas employer des demi-mots, des demi-mesures. Il faut le dire. Donc c'est aux enseignants, c'est aux journalistes aussi de faire passer le message. Et puis c'est aux parents, en fait, hein, dans les familles, hein, de pousser les filles aussi qui en ont envie de faire des sciences. La réforme là, du lycée en 2019 a été catastrophique pour les filles en mathématiques parce qu'elles manquent souvent de confiance en elles. Alors, moi, je ne vais pas parler de ma propre fille hein, parce qu'on va dire que c'est anecdotique, mais il y a vraiment des chiffres. Hein. Il y a eu le nombre de filles qui a choisi l'option mathématique a chuté de 60% parce que ce n'était plus au tronc commun. Donc c'est...
Pour info, on est revenu 20 ans en arrière.
Voilà.
On est revenu en 2003 en termes de statistiques des filles en sciences dans le supérieur.
Je pense qu'on a tous et toutes nos missions, c'est-à-dire on peut faire du prosélytisme, encourager les filles et les femmes en sciences, les parents aussi, comme disait Annabelle. Ce qui est important surtout, c'est de dire qu'on n'a pas de barrière et on n'a pas de limite et on peut tout faire. Et vraiment, il faut le marteler. Je pense qu'il faut que les petites filles prennent confiance en elles. Il faut leur laisser la parole parce qu'en effet, la prise de parole peut être compliquée. Je pense que tu dois le savoir mieux que moi. Donc il faut vraiment les encourager à s'exprimer, à ne pas avoir peur de dire des bêtises. Et surtout, elles peuvent dire plein de choses intelligentes aussi. Et donc, on a tous notre rôle là-dedans à jouer, je pense. Mais surtout, pas de barrière. Et si elles ont envie de faire quelque chose, qu'elles le fassent. Vraiment, il faut qu'elles foncent, en fait.
Et puis surtout, enfin, une des choses peut-être qu'il faut transmettre, c'est que la science et la recherche est une aventure. C'est peut-être le goût justement de cette passion-là, de la recherche, de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on parlait de socialisation. Alors, je fais très attention quand je parle de socialisation des filles parce que j'ai peur de transformer ça en prophétie autoréalisatrice. Mais justement, c'est-à-dire qu'on enseigne aux garçons d'être aventureux, beaucoup moins aux filles. Il faut qu'elles fassent attention, qu'elles aillent pas se mettre dans un danger. Mais peut-être que c'est ça aussi qu'il faut transmettre, cette passion pour la science, ce plaisir de la découverte, de la recherche et de l'exploration.
Alors moi, j'avais envie de parler de science-fiction ici, parce que moi, j'ai découvert la science-fiction très jeune, j'ai adoré ça, je pense que ma passion pour la science vient en grande partie de la science-fiction, mais j'ai découvert à l'époque des auteurs comme Isaac Asimov, que j'ai trouvé formidable, Mais il faut quand même dire que si vous connaissez les romans d'Asimov, il n'y a que des hommes dedans. Toutes les scientifiques, les personnages politiques, le pouvoir. Et ben, on se demande comment cette société se reproduit. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a aucun affect. Et avec le recul, j'ai beaucoup de mal, moi, à relire Asimov. Par contre, et ça, c'est moi ce qui me rend optimiste, je trouve que d'abord, la littérature a changé. Les femmes y ont beaucoup plus de place. Mais le cinéma ou la vidéo ont très bien joué un rôle pour inclure la place, les femmes d'une manière significative dans les récits. Et si vous avez l'occasion de voir la série Fondation qui passe sur la plateforme Apple TV, Fondation a été repris dans un esprit très proche de celui d'Isaac Asimov, avec la psychohistoire qui permet d'imaginer l'avenir. Mais à part qu'il a repris toute l'histoire en faisant des disciples de Harry Seldon qui sont des scientifiques de haut vol, eh ben, c'est une femme. Et puis c'est une femme noire, tiens, ça tombe bien. Et puis tout un tas de personnages féminin dans l'histoire, ce qui fait qu'il se passe plein de trucs intéressants entre les gens qui n'existaient pas dans les récits de base. Et je pense qu'une fille qui plonge dans ces histoires-là, eh ben les femmes, tout naturellement, sont des personnages importants. Et c'est quand même très intéressant de développer notre imaginaire de ce point de vue.
Ben justement, j'allais te poser la question en tant qu'autrice. Comment est-ce qu'on réinvente nos imaginaires? Parce que justement, comme le disaient Nathalie et Stéphanie et Annabelle, clairement, on a la première image qu'on voit quand on pense à un scientifique, c'est clairement pas une femme. Comment est-ce qu'on réinvente nos imaginaires? Parce que tu as cité Fondation. Moi, j'avoue que récemment, j'ai lu Vers les étoiles de Mary Robinette Cowell, qui est absolument génial. Il y a aussi For All Mankind, une série, où justement, les deux, c'est marrant, c'est des uchronies. Voilà, c'est assez ça, c'est assez proche, c'est des uchronies où justement, bah, en fait, la conquête spatiale est faite en partie par des femmes. Et donc, enfin, voilà, comment est-ce qu'en tant qu'autrice, on travaille justement cette matière-là pour essayer de, alors, peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être pas forcément conscient et volontaire, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler, pour modifier justement ces imaginaires-là?
Alors, moi, spontanément, je mets plus facilement en scène des femmes que des hommes. Donc déjà, ce sont souvent mes personnages principaux. Ce sont des gens qui peuvent être des scientifiques ou pas. Je pense que beaucoup de femmes ont envie de ne pas effacer l'affect de leur récit. Donc moi, j'ai des personnages qui ont des émotions entre lesquelles il se passe des trucs... qui sont pas uniquement des êtres cérébraux. Et peut-être que les femmes le font un peu plus systématiquement que les hommes, je ne sais pas. Il y a des hommes qui le font très bien, hein, je ne voudrais pas dire quelque chose de trop simpliste. Et comment on fait pour agir sur l'imaginaire? On l'a intériorisé, tout ça. À partir du moment où on prend conscience de tout, de la manière dont le système nous étouffe, produit des représentations stéréotypées, ça se fait tout seul, le chemin. À partir du moment où on a pris conscience, c'est bon, notre imaginaire, il peut se développer.
Et ouais, clairement. Et donc une autre façon aussi de changer un peu ces représentations, c'est via les rôles modèles. Alors je vais pas mentir, mais encore une fois, on se rappelle, hein, quand j'ai grandi, je pensais que à partir de Marie Curie, enfin avant Marie Curie, il n'y avait plus rien. Le problème, c'est que, enfin, quand on est une petite fille, on a beau être intéressé par les sciences, Marie Curie, c'est pas un bon rôle modèle. Enfin, du coup, comment est-ce qu'on construit des rôles modèles qui soient efficaces?
Alors, j'ai pas la réponse parce que je pense que ça va plutôt être vous, mesdames, qui allez les construire. Mais moi, par contre, je suis ravie de vous entendre parler de fiction et de personnages féminins parce que je pense que à ces personnages-là, qui sont des personnages fictifs, les petites filles peuvent s'identifier. Une fois, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je découvre, et je vérifie les chiffres, qu'il y a plus de femmes profs de physique et de maths que d'hommes. Et je me dis, bah alors je ne comprends. Oui, c'est plus de 50%. J'ai revérifié les chiffres les plus récents. Et c'est... alors je ne sais plus par contre lequel est le plus grand entre les maths et la physique, mais les deux dépassent les 50%. Et donc je me dis, bah alors je ne comprends pas, c'est-à-dire que toutes les petites filles, elles ont sous le nez des femmes scientifiques en permanence, néanmoins, elles continuent à s'auto-censurer. Et j'avais discuté avec Elena Pasqualini, qui est une autrice et qui, en l'occurrence, est docteur en sciences cognitives, et qui me dit, mais à un professeur, on ne s'identifie pas. Le professeur, c'est un espèce d'être à part, collé sur son piédestal. Et donc, n'importe quel élève, lui, le prof, c'est pas un être humain. Tu ne t'identifies pas au prof.
Il vit dans l'école.
Il vit dans l'école. Et l'autre chose, c'est que du coup, ça m'a fait rebondir. Non, mais j'y ai vachement réfléchi, parce que moi aussi, j'enseigne. Et du coup, je me dis, vous avez un exemple. Et j'y ai beaucoup réfléchi aussi. Du coup, je me suis dit, mais est-ce que les modèles type Marie Curie et autres... Mais Marie Curie, quand on réfléchit, c'est une super héroïne. Qui va s'identifier ? Moi, je ne suis pas Marie Curie, je ne peux pas m'identifier à Marie Curie. Donc, je pense plutôt que... Là, vous me redonnez espoir, parce que je pense que, justement, les personnages de fiction, peut-être, on arrive plus à s'identifier et vont peut-être faire plus de bien que Marie Curie, qui est une super héroïne.
Ouais, ou même... je veux dire, on trouve aussi des bons modèles féminins en dehors de Marie Curie. Mais d'ailleurs, c'est drôle, hein, on parle souvent de Marie Curie, puis on oublie de parler de sa fille, Irène. Hein, d'ailleurs, là, je termine un livre, on m'a demandé d'écrire sur Marie Curie, puis j'ai dit non, mais encore, il y a tellement de livres sur Marie Curie, vous ne voulez pas que je fasse autre chose. Alors, finalement, j'ai accepté de le faire, et puis j'ai dit ok, je veux bien le faire, mais vous me donnez la possibilité de parler de la mère et de la fille. Et d'ailleurs, je trouvais ce rapport assez fascinant. Elles ont travaillé 15 ans ensemble. On parle de Pierre et de Marie Curie. Marie a travaillé beaucoup avec sa fille, en fait. Donc déjà, en général, ils ne connaissent pas Irène Curie. C'est très drôle. Mais non, dans le livre aussi, justement, je voulais parler de ces femmes qui sont comme toutes les femmes, quoi. Enfin, il y a une généticienne dont je parle, qui vient de prendre sa retraite il n'y a pas très longtemps. Et c'est intéressant aussi, ça a été intéressant de faire son portrait pour montrer que on peut être chercheuse et puis on peut aussi vouloir avoir une famille. Hein, il se trouve qu'elle a 5 enfants et que ça faisait partie, dès le départ, de son choix de vie. Bah oui, on peut concilier les deux. Donc montrer aussi que ce sont des femmes comme les autres, en fait.
Alors, on peut peut-être concilier les deux, mais c'est quand même vachement de boulot. Quoi. Non, et puis il y a des nouvelles.
Elle avait un mari qui était au taquet aussi.
Oui, hein, c'est ça. Après, c'est l'histoire.
Il faut distribuer les
tâches. D'équipe, hein, justement. Après. Hein, il y a aussi très récemment dans les prix Nobel, il y a eu Emmanuelle Charpentier ou Anne Huillier encore très récemment, donc des femmes françaises. Donc il faut aussi qu'elles, et je vois sur les réseaux sociaux aussi, elles parlent pour promouvoir ça, les femmes en sciences et tout. Donc ça fait partie aussi de leur rôle d'essayer d'embarquer en fait, hein, les plus jeunes filles pour ces matières difficiles. Enfin, pas difficiles dans l'appréhension, pas difficiles quand on le vit. La biologie, en plus, c'est un cas un peu particulier parce que la biologie, c'est la fille qui a fait la science, mais pas trop quand même, quoi. Et donc, la bio, il y a beaucoup de filles. Et c'est vrai qu'après, on va sur des sciences plus dures en maths et en physique. Et là, il y en a plus, quoi. Donc, il faut aussi, dans les fictions, promouvoir les femmes chercheurs en maths et en physique pour donner des envies.
Il y a Nancy Kress qui le fait très bien.
Mais justement, en parlant de différence entre la maths et la physique, juste des petites stats là sur les prix Nobel. Ce qui est marrant comme tout, c'est que donc au total, il y a 25 ou 26 selon comment on compte prix Nobel féminins en physique, chimie, médecine. C'est simple, globalement, il y en a moite-moite physique, chimie d'un côté et médecine de l'autre. C'est-à-dire que clairement, en fait, il y a une vraie. Enfin, les femmes vont principalement en médecine. Et l'autre aussi, enfin, sur les rôles modèles, qui est aussi important, c'est que avoir des femmes, c'est bien. Mais justement, il y a aussi toute la notion. Enfin, il y a aussi toute une notion d'intersectionnalité et le fait que il y a aussi une diversité des modèles à avoir. Et pareil, quand on regarde, en fait, en préparant ces petites planches là pour cette table ronde, il y a quand même quelque chose qui m'a choquée. Donc du coup, j'ai fait un peu quelques stats. Globalement, si on sépare par continent ou presque. On a, sur les 25 donc, prix Nobel, on a 12,5, parce qu'il y a une franco, il y a une européenne américaine dans la bande. Donc il y a 12,5 prix Nobel qui viennent d'Amérique du Nord, 9,5 qui viennent d'Europe. Et sinon, à part ça, il y a une Israélienne, une Chinoise, une Australienne. C'est tout. Et clairement, en fait, il y a un petit manque de diversité. Et en fait, alors, vous parliez tout à l'heure de comment s'appelle de justification, on va dire, économique, sociale, etc., au fait que dans le passé, les femmes n'étaient pas en sciences. Il y en a probablement une partie qui est encore présente aujourd'hui. C'est pour ça que certaines nationalités ne sont pas forcément super représentées. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait aussi pour motiver tout le monde, et pas uniquement, entre guillemets, si je suis un peu brutale dans mes propos, les petites filles blanches, à faire des sciences ?
Moi, j'ai eu cette difficulté. On m'a posé la question, justement, pourquoi il n'y a pas davantage de diversité, pourquoi je n'ai pas parlé de femmes scientifiques africaines ou asiatiques. Ben, tout simplement parce que j'ai été confrontée à encore moins de données sur ces femmes-là. Et donc, comme en plus le procédé du livre, c'est des interviews fictives pour les femmes du passé, ben, je ne pouvais pas faire des interviews fictives, justement pas trahir leurs propos si je ne les connaissais pas suffisamment. Et moi, j'ai été vraiment confrontée à ce manque de sources, de données. C'est très compliqué de savoir quelle était la place des femmes dans la science en Asie, en Afrique. Il n'y a rien, il n'y a tout simplement rien, quoi. Donc... pour ça, il y a encore du boulot, c'est-à-dire que les historiens et les historiennes, justement, doivent faire ce travail d'exhumer, en fait, ce travail qui est effacé, qui est non dit, en fait. Je parlais de féminicide historiographique, c'est ça, quoi. On est dedans, quoi. Mais évidemment qu'il faut aussi promouvoir cette diversité-là. Et on sait que c'est compliqué d'être une femme scientifique. C'est encore plus compliqué quand on est femme et noire et qu'on vient d'un milieu défavorisé, etc. Ça se cumule, effectivement.
Et dans les labos, on a des stratégies ou pour l'instant, c'est encore un reste à faire, à inventer?
C'est assez difficile à en parler pour moi, juste parce que j'ai un énorme biais. Moi, je fais de la physique fondamentale en physique des particules. C'est une physique chère. D'accord. Un accélérateur, je ne vous fais pas des dessins, c'est extraordinairement cher. Donc déjà, les pays eux-mêmes qui sont impliqués, ça vient des pays riches. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des partenariats avec des choses qui s'appellent des laboratoires internationaux. Et dans ces laboratoires internationaux, on fait des échanges, par exemple. On accueille des étudiants de pays qui souhaitent participer. Nous, on a eu des étudiants du Vietnam, par exemple. Le deal, c'est ensuite, ils rentrent chez eux et ils ont un rôle à l'université ou un rôle où ils créent un laboratoire. Alors ça n'enlèvera pas le problème que le matériel reste cher et que donc on s'est aperçu que par exemple au Vietnam, c'est l'exemple que je connais le mieux, ils avaient créé effectivement des laboratoires de physique des particules théoriques. Parce que papier crayon c'est plus accessible, enfin là je fais des caricatures mais c'est ça, c'est beaucoup plus accessible qu'un accélérateur. Mais en tout cas on met beaucoup d'espoir dans les collaborations internationales qui, elles, sont beaucoup plus larges que juste les pays européens et nord-américains pour justement diffuser les connaissances et donner des moyens ensuite que ça percole. Mais c'est pas facile.
Ouais, et contrairement à une idée reçue, parce que là, tu parlais des modèles féminins justement sur d'autres continents, mais actuellement, il faut savoir que il y a sur certains continents bien plus de femmes qui font des sciences par rapport à ce qui se passe en France. Juste pour revenir sur des chiffres, le pourcentage de femmes dans la recherche, c'est 28%. C'est en dessous de la moyenne mondiale qui est de 33%. Et ça, ça a été pointé, les pays de l'OCDE, c'est pourri, ils ne sont pas bons du tout. La France et l'Allemagne, on est vraiment les mauvais joueurs. On est en dessous de la moyenne mondiale. Et il faut savoir qu'il y a des pays d'Asie du Sud-Est, il y a des pays d'Asie centrale. Je pense par exemple aussi à l'Arménie, à la Géorgie, au Kazakhstan, où il y a quasiment la parité. Ou alors vous allez en Amérique du Sud, Venezuela, Uruguay, Paraguay, on est à 50-50. Donc ça, c'est vraiment pour démonter une idée reçue. En France, on n'est pas du tout le pays où on est vers une égalité. Mais alors vraiment, on est à la traîne.
Ouais, je peux confirmer. C'est-à-dire que pour mon petit exemple local, la proportion de femmes seniors chercheuses, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire on est en dessous, bien en physique des particules, en dessous des 20%. En revanche, les thésards, qui donc viennent de tous les pays, parce que nous, nos étudiants en thèse viennent de tous les pays, eux, c'est 50% de filles et 50% de garçons.
Non, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux pays éventuellement à faible revenu ou intermédiaire et donc la part des femmes scientifiques dans ces pays. J'ai encore eu une visio ce matin pour le boulot parce qu'on a une collaboration qui se monte avec la République démocratique du Congo. Il faudrait d'abord, et ça c'est donc c'est vaste, il faut déjà que les petites filles aient accès à l'école en fait. Avant d'arriver à ce que ce soit des femmes en sciences, il faut déjà qu'elles puissent aller à l'école. Et donc il y a une vraie disparité. Donc il faut déjà commencer par la base. Il y a quand même du travail, hein, ouais. C'est sûr.
On en revient à ce qu'on avait dit au début sur le fait que oui, dans le passé, en Europe, pour le coup, les femmes n'avaient pas accès aux sciences déjà parce qu'elles n'avaient pas accès à l'école. Et là en fait, c'est, voilà, il y a encore des choses qui perdurent de cette époque-là. Ce que je propose, est-ce que je propose de laisser 15 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, il y a des questions dans la salle.
Le temps que quelqu'un attrape le micro, est-ce que je peux raconter un petit truc à propos de l'informatique ? Parce que l'informatique est une section où les femmes sont très peu visibles. Et pourtant, la première personne à avoir inventé le principe de la programmation avant même que les ordinateurs existent, avant la machine de Babbage, c'est Ada Lovelace, qui est une des grandes figures de l'informatique. On en parle dans les programmes, mais pas d'une manière très appuyée. Elle devrait l'être beaucoup plus. Et j'ai découvert beaucoup plus tard, et personne ne m'avait jamais parlé d'elle pendant mes études, ou plus tard d'ailleurs, quand avec des collègues, c'est Hedy Lamarr. Vous connaissez peut-être Hedy Lamarr, cette merveilleuse actrice d'une beauté éblouissante. Et ça a probablement été très dommageable à son image de scientifique, cette beauté extraordinaire, parce que, en fait, si on a du Wi-Fi, elle a inventé un principe de codage de l'information qui a permis de développer tout un tas d'outils de télécommunication, dont le Wi-Fi. Donc voilà, on l'oublie aussi. Alors, on oublie, quand on présente une femme, y compris dans la Wikipédia, on dit très vite si elle est mariée, si elle a des enfants. Pour un homme, on ne le dit jamais. Mais il y a des tas d'autres choses qui peuvent faire que ce n'est pas le côté scientifique dont on parle en premier.
Oui, et puis pour ajouter sur l'informatique, ce qui est incroyable, c'est que les premières programmeuses sont des femmes. Là, je parle des programmeuses d'ordinateur, parce qu'Ada, c'était une programmeuse de machines mécaniques. Mais les premières programmeuses sont des femmes, ENIAC, Marquand, IBM, Grace Murray Hopper, qui a inventé le langage COBOL. Et jusqu'aux années 1980, elles sont majoritaires. Et dans les années 80, on va commencer à avoir un effacement des filles, des femmes informaticiennes. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ? L'ordinateur, il fait son entrée dans les foyers. Ça devient un truc beaucoup plus petit. Ça devient un enjeu de pouvoir, en fait. Et ça va être les hommes qui vont se l'approprier. Et là, il y a une chute terrible, en fait, du nombre des femmes dans l'informatique, alors qu'elles étaient vraiment majoritaires en nombre dans les années 80, jusque dans les années 80. Voilà.
C'est d'autant plus terrible quand on voit le sexisme qu'il y a dans certains milieux de gamers, par exemple.
Ouais.
C'est assez effrayant. Une question.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde. En prenant pour exemple les réformes successives dans l'école, l'enseignement supérieur et dans la recherche, qui sont faites principalement pour des logiques économiques, et en voyant l'impact sexiste de ces réformes, je ne peux m'empêcher de lier logique capitaliste et féminisme. Pensez-vous qu'il est possible d'envisager la déconstruction du patriarcat sans changer le système économique ?
Alors, il y a eu des études qui ont essayé d'associer justement l'inégalité homme-femme à des questions de capitalisme. Alors, on ne va pas dire que le capitalisme est à la base de l'inégalité homme-femme, mais en tout cas, elle l'a renforcée. Parce qu'effectivement, dans un système capitaliste, si on regarde bien, les hommes exercent des métiers à forte, ce qu'on va dire, forte valeur ajoutée, et les femmes à faible valeur ajoutée dans le care, dans le soin, dans l'attention aux autres. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et donc effectivement, si on veut avancer, il va falloir se poser ces questions de lien entre le capitalisme et l'inégalité homme-femme. Mais encore une fois, ce n'est pas le moteur principal, ça l'a renforcé.
Pour rebondir sur ce que vous disiez ici, ma question remonte un peu là-dessus. Est-ce que justement, il ne faut pas réévaluer la valeur, y compris en sciences, de l'accompagnement ? On a cette idée de l'auteur principal qui est celui qui, ou celle qui représente le papier, cette idée qu'il faut être l'auteur principal d'un papier, mais est-ce que revaloriser l'aspect du care, l'aspect de la façon dont la recherche est envisagée, sur un plan collectif, sur cette idée d'accompagnement. Et là où les femmes sont généralement quand même plus présentes et du coup moins valorisées. C'est peut-être pas très clair.
J'aimerais peut-être compléter aussi pour dire est-ce que il faut réinventer le mode d'évaluation des scientifiques pour entre guillemets prendre compte d'autres métriques que simplement la publication et on va dire des valeurs très viriles.
C'est ça, sortir de l'idée qu'il faut être dans cette valeur virile pour avoir de l'importance en science. refuser de voir devenir un homme.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dans nos règles de publication, il y a l'auteur principal, c'est vrai. Il y a le dernier auteur. Il y a plein d'auteurs entre les deux. Mais l'auteur principal, ce n'est pas forcément et plus souvent un homme, en tout cas dans mon labo ou dans mon service. Ce n'est pas le cas du tout. C'est celui qui a mené les recherches ou celle qui a mené les recherches. Donc, et l'évaluation de la science ou des laboratoires et de la production scientifique n'est pas basée, maintenant ça a plutôt pas mal changé, n'est pas basée que sur la publication, loin de là. On a aussi des évaluations sur d'autres modes de communication, de transmission, d'enseignement, sur des brevets ou de la valorisation de brevets qu'on peut avoir. Donc je suis pas complètement en phase. En tout cas, j'ai pas l'impression que la publication soit un biais de genre et favorise les hommes par rapport aux femmes. Ça reflète le travail qui est fait par la personne et c'est pas un homme va pas prendre la place d'une femme en premier auteur si c'est pas justifié. Enfin, c'est...
Je voulais juste dire que la manière dont on met les signatures dans une publication dépend complètement du domaine scientifique. Il y a des habitudes communautaire, il y a des pratiques très différentes, il y a des domaines où il y a couramment 100 ou 120 auteurs, il y a des domaines où on comptabilise essentiellement les publications qui n'ont qu'un auteur, où on ne compte qu'une demi-publication quand ils sont deux, il y a des secteurs où on les met par ordre alphabétique, il y a des secteurs où on met le directeur de labo en premier ou en dernier, le premier auteur n'est pas dans tous les domaines celui qui a rédiger le plus de textes dans la publi finale, mais après on ne peut plus faire des généralités sur comment sont signés les publis, ça varie trop je crois.
Oui, et puis y a, en effet ça dépend aussi des domaines et aussi de l'expérimental ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des domaines expérimentaux où forcément il y a des gens qui ont plus contribué que d'autres et donc c'est valorisé aussi par la partie expérimentale où parfois il y a beaucoup plus d'apport d'une personne que d'une autre, par exemple.
Et je vais descendre encore plus bas dans la granularité. Si je prends les grandes expériences LHC, Atlas et CMS, les deux ont des modes de listing des auteurs qui sont propres à la collaboration. Donc, il y en a un qui classe par ordre alphabétique du pays et l'autre qui classe par ordre alphabétique du nom. Donc, vous voyez...
Bonjour et merci beaucoup pour cette discussion ici. Je voulais peut-être continuer sur ce sujet-là au sein du milieu de la recherche. Début 2022, il y a un livre de Adèle Combe qui est sorti qui s'appelle « Comment l'université broie les jeunes chercheurs » et qui s'intéresse au versant très toxique du patriarcat au sein du milieu de la recherche, comment il est exercé, comment la relation de pouvoir est exercée sur les jeunes chercheurs. Et par rapport à toutes ces discussions, je me demandais comment on fait pour... ne pas faire porter le poids immense de cette égalité à l'intérieur du système, juste sur les femmes qui sont déjà minoritaires. Et comment on fait pour que tout le monde veille sur tout le monde, en fait ?
?42 ?
On sera tous très contents si on arrive à trouver une réponse. Hein.
C'est déjà bien, en tout cas, d'en avoir conscience. Ça, c'est le point de départ dans le comment faire. C'est déjà ne pas nier qu'il y a des discriminations et des inégalités. Ne pas nier non plus qu'il y a des privilèges. Donc, c'est déjà une bonne avancée. C'est d'en avoir conscience.
Alors, si je peux parler juste, en tout cas, des étudiants ou étudiantes en thèse, il y a maintenant des barrières supplémentaires qui sont mises en place. Il y a des comités de suivi de thèse quand même très réguliers qui n'existaient pas avant. On pouvait faire sa thèse. Enfin, moi, à l'époque où j'ai fait ma thèse, je n'avais pas de comité de suivi de thèse. J'ai fait ma thèse sans avoir rencontré quelqu'un pour parler d'éventuels problèmes que j'aurais eus. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Il y a quelques années, il y avait un comité de suivi de thèse sur toute la durée. Qui était encore pas suffisant. Maintenant, il y en a vraiment un par an. Et vraiment, le comité de suivi de thèse est vraiment là. Je parle pour les étudiants de thèse, hein, je ne parle pas de l'université en général. Hein, mais vraiment là pour justement apporter ces barrières. Il y a des échanges avec le comité de suivi de thèse pour pouvoir identifier des choses de ce type. Moi, en tant que manager, ce que je peux vous dire, et en tant que femme manager, je suis évidemment très vigilante à ce que les étudiants en thèse qui sont dans le service... soit bien accompagnée, soit pas en risque ou situation de quoi que ce soit, de risque, de stress. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus vigilant. Enfin, c'est le collectif de managers, peut-être. En tout cas, ceux qui ne le sont pas, il y a quand même des recours maintenant.
Bonjour. Oui, excusez-moi. Pendant cette heure, vous avez parlé d'informatique et vous avez parlé de la réforme du bac qui a évolué en 2019. Moi, je suis un futur professeur d'informatique au lycée et dans notre programme, dans le bulletin officiel, il y a marqué qu'on doit parler de l'histoire de l'informatique et notamment des chercheuses qu'il ne faut pas invisibiliser. On parlait d'Ada Lovelace, mais il y en a plein qui sont dans le milieu. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser aux autres sciences ? En généralité, notamment en maths, en physique, en biologie, pour montrer l'importance de ces chercheuses qui ont été importantes. Et je voudrais aller même un petit peu plus loin. Est-ce qu'il faudrait mettre en avant aussi des chercheuses transgenres ou du milieu un peu plus du milieu qu'on cache aujourd'hui dans la science, parce que c'est déjà un sujet de société en soi, mais c'est en plus un sujet dans les sciences qu'il faudrait aborder pour une meilleure égalité.
C'est dans toutes les disciplines scientifiques qui sont enseignées en collège, en lycée, c'est vers ça qu'on va, hein, clairement. Vous destinez à l'informatique, mais le monde enseignant en général est sensibilisé à cette problématique. Et effectivement, parler des femmes dans toutes les disciplines, mathématiques, physique, biologie, etc., et de la diversité, ça fait partie des missions que l'on a. Et on a de plus en plus, d'ailleurs, on est de plus en plus encouragés à faire venir justement des chercheuses. Encore, je dis des chercheuses, mais moi, j'aime bien élargir, en fait, c'est-à-dire aussi des techniciennes ou des ingénieurs de recherche, enfin, voilà, une diversité de métiers autour de la science, à faire venir ces femmes dans les établissements et à encourager les filles. Enfin, voilà, là, on est au premier trimestre de l'année, on a déjà deux actions sur Osons la science, enfin, Elles osent, etc., et qui sont destinées aux filles, hein, donc dans toutes les disciplines scientifiques.
Et notamment, il y a une journée, Elle bouge, le 7 décembre.
C'est dans ce cadre-là, effectivement, mon établissement est déjà partenaire avec cette association. Donc, ça bouge pas mal dans les établissements, mais surtout collège et puis lycée. Ouais.
Je trouve ça très bien qu'on dise un mot à propos du LGBT+. Et malheureusement, dans l'informatique, on parle habituellement d'Alan Turing à ce sujet-là. Et Alan Turing, qui a quand même souffert pour de multiples raisons du fait que ses travaux sont restés confidentiels parce qu'ils étaient liés à la sécurité, à la défense du pays. Et puis, sa fin tragique qui fait qu'il a payé très cher son homosexualité. De manière générale, je trouve que c'est des affaires personnelles qu'on n'a pas forcément besoin d'en parler. Mais malheureusement, la seule référence claire qu'on ait sur des positionnements non standards, c'est lui, et c'est tragique. Ça peut susciter des débats aussi, le fait de parler de sa vie.
Et donc, on va prendre une dernière question.
Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'ai une question par rapport à un biais qu'on n'a pas trop abordé et qui, personnellement, me met souvent très en colère, par rapport à la légitimité, notamment en sciences ou dans les techniques, en ingénierie, etc. Moi, j'entends très souvent autour de moi, alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais oui, mais si elle a eu le prix Nobel, c'est parce que c'est une femme, ou si tu as eu ce poste, c'est parce que tu es une femme, ou votre profil nous intéresse parce que vous êtes une femme. Comment on fait pour combattre ça ? Parce que, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de mal, notamment aux étudiantes, ou aux élèves, aux filles plus jeunes, mais aussi à nous. Hein, moi, perso, ça m'énerve. Comment on fait pour combattre ce biais-là et convaincre les filles et les femmes qu'elles ont une légitimité en fait et qu'elles n'ont pas été embauchées, enfin que les femmes qui ont des prix Nobel, c'est pas que parce que c'est des femmes ou que les femmes qui font une carrière d'ingénieur ou autre, c'est pas juste parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'en fait elles sont super compétentes et super fortes, quoi.
C'est dur, ça montre qu'il y a encore quand même beaucoup de boulot, quoi. C'est ça qui est dur, en fait. Alors, les femmes qui ont eu le prix Nobel, c'est parce que c'était des femmes. Ils auraient dû le faire plus souvent si c'était parce que c'était des femmes, parce qu'il n'y en a quand même pas eu beaucoup. Mais après, je suis assez soufflée du genre de remarque votre profil nous intéresse parce que vous êtes une femme. Je comprends. Enfin, je ne sais pas quels sont les moyens d'action. Je pense qu'il y en a, même légalement, parce que c'est juste pas acceptable d'entendre des choses pareilles, quoi.
Après, il y a aussi tout un débat justement sur les. Enfin, moi, je sais typiquement dans ma vie professionnelle, donc je travaille dans l'industrie, mais il n'y a pas que dans l'industrie où vraiment la question de les quotas, la discrimination positive, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion qui est encore, pour moi, typiquement, par exemple, pour moi, j'ai suspendu mon jugement. Pour l'instant, je n'ai pas d'opinion, parce que vraiment, voilà, comment est-ce qu'on met en place à la fois comment est-ce qu'on promeut les femmes en sciences sans justement déclencher cet effet de non mais. Il faut des quotas, il faut qu'il y ait 50%, donc on va promouvoir tout le monde, allez hop, en avant, bien grand, quoi.
Alors moi, quand je veux me rassurer, parce que sinon c'est très très déprimant, je pense qu'on est dans une phase transitoire où peut-être que quand on n'aura plus besoin d'en parler, on aura gagné, d'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, enfin j'imagine qu'autour de cette table, on l'a tous vécu, le tu me mets dans l'embarras parce que t'es la quatrième femme à qui je demande et toi non plus tu peux pas et... Mais tu m'as demandé pourquoi exactement ? Parce que j'ai des choses à dire ou parce que je suis une femme ? Bon, bref. Donc, on l'a tous vécu. Et ces histoires de quotas, c'est délicat parce que justement, comme on est peu, eh ben, on est sursollicité. Donc, on ne peut pas répondre à tout. Donc, blablabla. C'est un cercle vicieux. Mais peut-être que les quotas qui, pour l'instant, sont du coup un peu mal vécus, peut-être qu'in fine, une fois que ce sera établi, on n'aura plus à en souffrir. Quoi.
C'est un mauvais moment à passer. Voilà. Contrairement à cette table ronde qui, pour le coup, était plutôt un bon moment. Donc, je pense qu'on peut remercier et applaudir nos intervenantes. Je rappelle que Sylvie Lenné et Annabelle Crémer-Lecointe seront en dédicace demain après-midi à 14h45, il me semble. Que vous pouvez retrouver nos deux chercheuses sur le stand du CA, qui a une superbe animation justement sur les femmes en sciences. Donc, c'est totalement... adapté. Et en plus, voilà, vous aurez plein d'exemples de modèles divers et variés de femmes chercheuses. Bon après-midi à tous.
Merci à toutes et tous.
Actu SF. Les podcasts.